En 2020, on a tout un problème. Et je dirais même qu'on a un problème qui est encore plus grave que celui de la COVID-19. En effet, essayer de trouver la vérité sur un sujet particulier aujourd'hui, même avec toutes les ressources qu'on a sur Internet, prenez n'importe quel sujet et essayez de trouver la vraie vérité là-dessus. Je vous mets au défi. Je vous dis que ce n'est pas facile en 2020. Où est passée la vérité? Elle est tellement loin qu'on n'arrive même plus à la trouver. Mais comment est-ce qu'une société peut arriver à vivre là où la vérité n'existe plus? Ça, c'est vraiment dangereux. Je crois que cette réalité a été même amplifiée avec toute cette histoire de la COVID-19. Ça l'a juste mis au jour, finalement, ce fait-là. Et c'est quelque chose que je veux qu'on aborde ce matin. J'ai choisi un reportage, pas parce que je veux favoriser cette position-là plus qu'un autre, mais juste pour nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme information quand on cherche un petit peu, puis c'est pas long, là, sur le web. Donc, je vais inviter Gilles à nous faire jouer les deux premières minutes à peu près de ce reportage. Donc, regardez ça avec moi.
Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'Université d'Ottawa parce que nous avons en entrevue un chercheur, ancien professeur de cette université qui viendra nous entretenir sur des sujets chauds d'actualité. Pour en savoir plus, restez des nôtres, je vous présente cette entrevue après ce qui suit. On entend plein de choses par rapport à la pandémie qui bat son plein actuellement. Tantôt des informations qui peuvent être controversées par rapport à d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un chercheur, un ancien chercheur et professeur titulaire de l'Université d'Ottawa qui a pratiqué plusieurs domaines de la science, qui était financé par une agence nationale, qui a dirigé un laboratoire reconnu internationalement, qui a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes, publié également plusieurs essais de commentaires sociaux. Aujourd'hui, il est également chercheur, toujours chercheur, à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Monsieur Denis Rancourt, bonjour.
Bonjour Jean-François.
C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de cette pandémie-là. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui trois axes. Pandémie, j'aimerais avoir votre position par rapport à la pandémie. Deux mots qui font partie maintenant de notre langage à travers le Canada, je dirais peut-être même à travers le monde entier. Distanciation sociale et confinement. Et j'aimerais qu'en conclusion, qu'on puisse regarder tout l'aspect au niveau du masque. Quelle est votre position par rapport à cette pandémie-là?
Ben, ça va vous sembler un peu radical, là, ce que je vais vous dire, là, mais il n'y a pas eu de pandémie. Parce que la façon de regarder les données les plus robustes, les meilleures données, c'est de regarder la mortalité toutes causes confondues. Quand on regarde la mortalité toutes causes confondues par semaine, ça donne un graphique qui peut s'étaler sur plusieurs décennies, qui montre toujours un maximum, une espèce de bosse surélevée l'hiver. Il y a toujours une bosse l'hiver de la mortalité, toutes causes confondues. Après ça, il y a un creux l'été, une bosse l'hiver, un creux l'été. C'est un patron extrêmement régulier. Et la raison, l'existence de ce patron-là, c'est dû aux infections.
Je voulais juste qu'on commence par cette peut-être petite mise en contexte, en situation-là. Donc, vous allez remarquer, lorsque vous allez sur Internet, vous cherchez sur un sujet donné, il commence toujours comme ça. C'est le scientifique par excellence. Lui, on peut se fier à lui. Lui, il va nous dire la vérité. Il est compétent. Ce monsieur-là, il est même engagé par le gouvernement. Il est payé par le gouvernement. Il est chercheur actuellement. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Vous pouvez vous fier à lui. Et là, il nous affirme qu'il n'y a pas de pandémie. OK? Puis, si vous croyez, comme lui, qu'il n'y a pas de pandémie, vous allez aller sur Internet, vous allez trouver des milliers de sites où des chercheurs aussi compétents que lui, des fois même plus compétents, vont vous affirmer qu'il n'y a pas de pandémie. Puis, d'un autre côté, Si vous croyez qu'il y a effectivement une pandémie, que c'est dangereux et qu'on doit prendre des mesures, vous allez aller sur Internet, vous allez fouiller et vous allez trouver des milliers de reportages comme celui-ci avec des scientifiques renommés, des scientifiques qui sont vraiment compétents, qu'on peut croire et qui, eux, vont affirmer qu'on a une pandémie mondiale, qu'on est en danger, qu'on doit prendre toutes les mesures qui sont à notre disposition. Puis ça, je pense que c'est le gros problème de notre société actuellement. On peut choisir aujourd'hui l'information qu'on veut bien entendre. Si on veut entendre qu'il n'y en a pas de pandémie, on peut passer nos journées entières à écouter des reportages qui nous disent qu'il n'y en a pas. Si on veut écouter des actualités qui nous disent que la pandémie est grave, bien, vous allez être choyé, il y en a des milliers, vous allez passer vos journées à écouter des reportages qui vous disent qu'il y a une pandémie. Puis là, au fur et à mesure que vous avancez, le creuset se fausse. Le fossé se creuse. Ma langue m'a fourchu. Mais le fossé entre les deux se creuse. Et moi, je pense que plus ça va aller, les gens vont se prendre à la gorge parce que l'autre ne sera pas de son opinion. Parce qu'ils sont tellement rendus convaincus avec des milliers de chercheurs à l'appui, puis l'autre est tellement convaincu avec des scientifiques de renom à l'appui que ça va être grave tout à l'heure. Mais notre société, avec toute l'information, l'accessibilité à l'information, est rendue là. Et ça ne fait qu'alimenter, je crois, les différences entre les personnes. Où est la vérité? Comment trouver la vraie vérité dans cette situation-là? Et je veux donner, je suis content que les amis soient avec nous ce matin. J'ai mis une image dans mon diaporama. Hein, tout le monde la voit, mon image? OK? J'aimerais ça, il y a une expression de trois mots derrière cette image-là. J'ai déjà vu ça. Il y a une image, il faut trouver l'expression qui va avec ça. Une expression de trois mots. À la fin de la prédication, je veux que quelqu'un me donne l'expression de trois mots qui est illustrée ici. Évidemment, ce n'est pas une image que moi j'ai faite, je l'ai prise sur Internet, mais il y a une expression de trois mots qui va aller avec ça, donc pensez-y pendant la prédication, mais écoutez-moi quand même. Là. Vous pouvez m'écouter quand même, mais je vous mets au défi de trouver l'expression derrière ça. Je peux juste m'allumer. Donc, ce ne sera pas drôle, frères et sœurs, tout à l'heure. Le 20e, 21e siècle va avoir un sérieux problème. Plus ça va aller, plus on va voir ces différences d'opinion-là marquées. Puis je pense que ça va provoquer justement ce qu'on voit depuis les derniers mois, des émeutes. Tout de suite qu'il y a une opinion qui est donnée quelque part, les émeutes commencent. Je pense que ça va aller de plus en plus intense, de plus en plus violent, et c'est triste. Quand il n'existe plus de vérité, quand il n'existe plus de balises absolues, de limites à ne pas franchir, savez-vous ce qui arrive? Eh bien, on voit ça dans le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël, là, je ne sais pas, peut-être juste mettre le curseur sur le... OK. Était qu'il n'y avait plus de roi, finalement. Regardez ce qui arrivait dans Juges 21. Il dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ça qui arrive. Quand il n'y a plus de vérité absolue, chacun fait ce qui lui semble bon. Donc, si mon voisin, ça lui semble bon de prendre mon boyau d'arrosage, de faire des trous dedans, puis de le mettre dans son jardin pour l'arroser par la racine, parce que c'est la méthode la meilleure pour arroser, bien, lui, si je juge ça bon, c'est correct, c'est ce que ça nous dit. Ou si mon voisin il juge bon, ça lui semble bon de manger mon chien demain midi sur son barbecue, bien, il juge ça bon. Bien, vous imaginez ce que ça fait. Quand il n'y a plus de balises, quand il n'y a plus de vérité, quand il n'y a plus de règles à respecter, écoutez, c'est le chaos total, là. Ça ne fonctionne pas. C'est comme ça que les guerres commencent, finalement, là. Ça commence dans votre jardin, les guerres. Donc, c'est ça qui arrive s'il n'y a plus de balises. C'est pourquoi ce matin, J'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ce que disent les Écritures au sujet de la vérité. Où est-ce qu'on peut trouver une base sûre à la vérité? Et évidemment, on a tout un contrat, fait que je vous invite, on va se courber pour demander au Seigneur de nous aider ce matin. Eh bien oui, Seigneur, on réalise le sérieux problème qu'a notre société aujourd'hui, où finalement, plus rien n'est mal, plus rien n'est bien. Il n'y a plus rien qui est vrai, absolu. Il n'y a plus rien qui est un faux absolu. Seigneur, on sait que notre société, que chacun d'entre nous, on a besoin d'une base solide pour la vérité. C'est ce qu'on veut se demander ce matin, ensemble. Dans les Écritures, comment est-ce qu'on peut trouver cette base-là? Et je te prie de nous diriger, utilise ma bouche, prépare chacun de nos cœurs aussi à recevoir ce que toi-même tu vas vouloir nous dire ce matin. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, le texte de ce matin, vous pouvez tourner avec moi. On va aller à la suivante. Gilles, je vais juste te faire signe, Gilles, pour le... Donc, dans Jean, chapitre 16, et c'est la moitié du verset qu'on va regarder, donc le début du verset 13. Jean, chapitre 16, le début du verset 13 nous dit... Je pense que je lis celle-là, la prochaine, je l'ai... Oui, allez. En même temps, en te le disant, Gilles, ça va permettre aux gens à la maison de pouvoir changer leur diapositive. Donc, là, voilà. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Okay? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est juste sur ces quelques mots-là que je veux qu'on se concentre ce matin. Ces mots, en passant, s'insèrent dans toute une prédication que Jésus avait faite à partir du chapitre qui précède par rapport à l'Esprit de Dieu. Il y a toute une présentation, mais là, il arrive dans cette affirmation, donc au verset 16, qui nous dit... le rôle, finalement, que va avoir l'Esprit de Dieu après son départ. Donc, j'aimerais qu'on se concentre sur cette portion ce matin dans ce gros discours-là. Donc, premièrement, suivante, on parle de l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de Dieu, évidemment, mais ici, Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Et on pourrait se demander de quelle vérité il est question. C'est quoi la vérité dont Jésus nous parle ici? Eh bien, évidemment, deux chapitres plus tôt, puis les amis doivent le connaître, ce verset-là. Hein, peut-être qu'on aura besoin de l'aide des petits amis pour compléter la phrase. Dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça, c'est juste... ça, c'était dans 14, donc deux chapitres avant ce texte-là, Jésus venait d'affirmer que la vérité, c'était lui. Donc, il faut toujours lire un texte dans son contexte ici, là. Donc, quand on parle l'Esprit de vérité, donc son rôle va être de nous révéler Jésus, qui est la vérité. Il va nous parler de Jésus, de ce qu'il est, de ce qu'il nous a enseigné et de ce qu'il a accompli. C'est ça, la vérité que porte le Saint-Esprit, finalement. C'est pour ça qu'il est l'Esprit de vérité. En même temps, le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. On sait qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dieu dit toujours la vérité, Dieu est toujours vrai. Donc, évidemment, parce que l'Esprit fait partie de la Trinité, qu'il est Dieu, bien lui aussi, il n'y aura pas de mensonge en lui, il dit toujours la vérité. Ça, c'est évidemment, ça vient en contraste avec tous les mensonges que nous offre le monde autour de nous, toute cette confusion-là, puis en même temps en contraste avec celui qu'on appelle le prince du mensonge, hein, avec Satan. Donc, c'est vraiment le contraire de Satan, qui lui n'est pas capable même de dire la vérité, hein, qui ne dit que des mensonges, mais l'Esprit ne dit que la vérité pure et simple. Donc, si nous nous laissons diriger par cet esprit de vérité, on va pouvoir marcher nous-mêmes dans la vérité. Toute autre source que l'Esprit de Dieu comporte un différent niveau de risque qu'on se fasse tromper, qu'on croie finalement des mensonges, puis qu'on les prenne pour des vérités. Puis sincèrement, si on mettait une échelle pour le degré de fiabilité des informations, je vous garantis qu'Internet ne serait pas haut là-dessus. Hein, parce que ça, justement, une information sur deux va être fausse, vu que les informations sont contradictoires. Souvent, une information sur deux, tu ne sais pas c'est quoi la vraie vérité entre les deux. Donc, Internet n'est vraiment pas haut. À part quelques faits, je pense qu'on pourrait se fier, mais pour les détails des informations ou des positions, il faut être vraiment prudent. Juste, ça me rappelle ça, puis la semaine passée, je parlais avec mon père. Mon papa est un ancien policier, un ex-policier, et il me racontait que la première journée où il est allé en patrouille, le premier rappel sur lequel il est allé. C'est un événement quand même assez important. Et évidemment, les médias étaient présents et tout ça. Et le lendemain matin, il avait hâte de voir justement l'appel qu'il avait fait sur le journal. Et effectivement, la nouvelle était là. C'est une ville quand même d'une bonne grandeur dans laquelle il travaillait. Et il commence à lire l'article de l'intervention qu'il avait faite. Et l'événement était vrai, qu'il y avait eu un événement, qu'il y avait eu une intervention policière et tout ça. Mais quand il a commencé à lire l'article, c'était totalement faux. Tous les détails étaient inventés. Évidemment, quand il arrive un événement comme ça, les policiers ne vont jamais donner des informations. Ils vont dire « oui, on a fait l'arrestation d'une personne », c'est tout ce qu'ils vont dire à peu près. Puis le journal en écrit des fois 2-3 pages. Avec cette seule affirmation-là. Donc, tout ce qu'il avait décrit après, c'était faux. Mon père me disait, puis il ne savait pas que j'allais prêcher là-dessus, mais il dit, le lendemain, il a appelé au journal, puis il a cancellé son abonnement. Il dit, si c'est ça, les informations que vous me donnez, c'est des mensonges. C'est un tissu de mensonges, puis il n'a plus jamais été abonné à un journal par la suite, parce que c'était pas fiable, c'est pas une source fiable. Parce que je suis rendu avec ça. OK. Donc, c'est l'esprit de vérité. On peut vraiment avoir confiance que tout ce qui nous vient de l'esprit est la vérité. Deuxièmement, on peut aller à la suivante, s'il te plaît. Donc, l'esprit de vérité vous conduira, nous dit le texte. Donc, il nous conduit. Jésus, quand il dit ça, s'adresse évidemment aux futurs auteurs du Nouveau Testament. Or, nous savons aussi que, bien que Jésus soit la vérité, il est aussi dit qu'il est la parole. Au début de l'Évangile de Jean, hein, la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Donc, Jésus est aussi la parole. Dans sa prière qui va venir au chapitre suivant, la prière qu'on dit sacerdotale, juste avant d'être mis à mort, dans Jean 17:17, il affirme qu'il dit « ta parole est la vérité », donc la parole de Dieu. Donc c'est plus large, c'est Jésus qui est la vérité, mais c'est la parole de Dieu, dans son ensemble. Et évidemment, tout ce qui allait être écrit par les apôtres dans les mois qui allaient suivre, les années qui allaient suivre, et devait être aussi la vérité parce que c'était dirigé par l'Esprit. Donc, la parole de Dieu est la seule source qui est entièrement sûre, à laquelle on a accès, évidemment. Tout ce qui se trouve dans les textes bibliques peut être reçu en toute confiance. On peut être certain que ce n'est que de la vérité à son état le plus pur. Le rôle du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, est donc de nous conduire à travers cette vérité. Puisqu'il faut lire un texte, toujours dans son contexte, J'aimerais ça qu'on regarde juste le texte qui précède. Donc, Jean 16, 12. Juste avant notre texte, Jésus affirmait, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc, ce que Jésus dit, c'est que les disciples ne seraient pas prêts à entendre certaines choses présentement, mais que l'Esprit va les révéler plus tard, lorsqu'eux vont être prêts à les entendre. Lors du camping annuel, aussi, on avait regardé un texte dans 2 Corinthiens 3, verset 16. On avait vu que lorsqu'on se convertit, il y a un voile qui est devant nos yeux, qu'on ne comprend pas les Écritures, mais lorsqu'on se convertit, Jean 2 Corinthiens 3, 16 nous dit que le voile est ôté, puis on comprend les Écritures. C'est ça que l'Esprit Saint fait. Il nous aide à comprendre ce que les Écritures disent pour pouvoir l'appliquer dans nos vies, pour pouvoir le comprendre, finalement, quand on est prêt, évidemment. Alors, l'Esprit de Dieu, lorsqu'on se convertit, a tout le loisir de nous conduire jour après jour dans notre compréhension des vérités des Écritures. Évidemment, toujours quand on est prêt à entendre ces vérités-là. Donc, pour être conduit par l'Esprit, on doit se laisser conduire, parce que le Saint-Esprit ne va pas nous conduire, nous obliger, nous imposer de marcher dans la vérité, mais on doit nous-mêmes être d'accord à ce que l'Esprit le fasse. Il ne le fait pas de force, finalement. Mais lorsqu'on se rend disponible, qu'on accepte que l'Esprit nous conduise, alors on peut être dirigé par l'Esprit et là on peut répondre, « Oui Seigneur, me voici. » Lorsqu'il nous interpelle par un texte biblique, parfois c'est pour nous montrer quels sont peut-être nos péchés, les choses qu'on doit corriger dans notre vie. Ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile à entendre, pas toujours facile à avaler des fois la vérité. Mais lorsqu'on est prêt, l'Esprit Saint va nous les montrer, ces vérités-là. Il arrive aussi parfois que quand on présente l'Évangile à quelqu'un, ça vous est sûrement déjà arrivé, quelqu'un, exemple, il est un gros fumeur, puis là, il te pose la question, après avoir entendu l'Évangile, « Oui, mais si je me convertis, je vais être obligé d'arrêter de fumer? » Qu'est-ce qu'on répond dans ce temps-là? Est-ce que la personne est prête à entendre ce qu'on a à lui dire? Il dit, « Non, mais si tu te convertis, tu vas être le temple du Saint-Esprit, puis là, tu ne peux pas détruire le temple du Saint-Esprit, parce que la fumée, c'est une épaisse pour la santé. » Donc, souvent, ce qu'on va juste faire, c'est « Garde, pour le moment, ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu es un pécheur. » Tu as besoin de te repentir, te convertir au Seigneur Jésus pour être sauvé. Le reste, le Saint-Esprit va te le montrer au fur et à mesure que tu vas marcher. On ne parle pas de péché noir sur blanc, là, mais des choses qui vont venir dans la suite des choses. Donc souvent, l'important, c'est qu'ils se convertissent. Après, l'Esprit va avoir le loisir de lui montrer graduellement ces choses-là. C'est pour ça que souvent, quelqu'un qui va fumer, des fois, ça va prendre quelques mois, même des fois quelques années, avant que l'Esprit le convainque que oui, je devrais arrêter de fumer parce que ce n'est pas bon pour ma santé, tout simplement. Donc, on va être obligé de leur dire, non, attends, ça va venir en temps et lieu. Le Saint-Esprit te le montrera. Inquiète-toi pas de ces choses-là. Présentement, tu as besoin de savoir ça, ça et ça. Veux-tu? OK? Donc, c'est ça, c'est graduel. L'Esprit nous révèle la vérité graduellement. Je pense que lorsqu'on s'est converti, pour ceux que ça fait 25, 30, 40 ans qu'ils sont croyants, là, hein, si le jour où vous êtes converti, vous saviez tout ce que vous savez aujourd'hui, là, ça aurait été dur à parce que le Seigneur nous en montre toujours. Plus que le Seigneur nous en révèle, dit, voyons, il y en a bien des affaires dans ma vie que je dois changer, que je dois faire attention, que je dois modifier. Mais c'est ça, quand il le fait graduellement, bien, ça se fait naturellement. Puis, tiens, je n'avais jamais réalisé ça. Là, tu travailles sur ce domaine-là. Tiens, je n'avais jamais vu ça. Fait que c'est ça. L'Esprit le fait graduellement, nous révèle la vérité. Ensuite, le troisième, toute la vérité est à notre portée. Il dit ici, vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a la vérité absolue dans tous les domaines, même les domaines séculiers, comme tout à l'heure on parlait de la pandémie, que même au niveau de la pandémie, nous, on a la vérité, parce que l'Esprit nous révèle toute la vérité. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Eh bien, encore une fois, on regarde un texte dans son contexte. OK? C'est pas ce que le texte nous dit. Donc, ça nous conduit dans toute la vérité en ce qui concerne Jésus. Donc, son ministère, ses enseignements, sa personne, c'est dans cette vérité-là que l'Esprit nous conduit. On a tout accès à toute cette vérité-là dans son ensemble, à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, toute cette vérité-là nous est révélée. Pas toute quelle est la meilleure voiture en GM et Ford, là. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent, mais par rapport à ce qui concerne Jésus-Christ. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, on a le fondement le plus solide qui soit en termes de vérité, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'immuable. C'est un rocher solide sur lequel on peut s'appuyer. Aussi, en sachant ça, tout ce qui vient en contradiction avec ce que disent les Écritures, on doit accepter en même temps que c'est forcément un mensonge, que ce n'est pas la vérité. Donc, si quelque chose vient en contradiction avec la Bible, ça, on sait que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge parce que la Bible dit la vérité. Si ça dit le contraire ou d'autres choses, ce n'est pas la vérité. Par exemple, si ton ami te dit, hein, Gabriella, ton ami dit que c'est pas grave si tu prends la barre de chocolat au dépanneur, puis tu ne la payes pas, puis tu sors, la mets dans ta poche, bien ça, tu sais que c'est en contradiction avec ce que disent les Écritures. La Bible nous dit de ne pas voler. Ça serait voler. Donc, en connaissant les Écritures, tu peux tout de suite identifier, non, ce que tu me dis là, je sais que ce n'est pas vrai. C'est du vol, c'est pas bien de faire ça. Okay? Donc, tout ce qui vient en contradiction avec la Bible, ça, c'est du mensonge. Mais comment cette réalité peut m'aider à savoir si la pandémie est réelle ou si c'est une invention, que c'est de la fiction? Comment est-ce que l'Esprit peut m'aider à faire la part des choses? Finalement, quand tu as cette base de vérité, ce rocher solide, est-ce que de savoir si la pandémie est réelle ou pas, c'est si important que ça, finalement? Est-ce que tu peux vivre, même en ne sachant pas si c'est une vraie pandémie ou si c'est juste un virus qui circule tout simplement, c'est-tu si grave, finalement? Parce que la vérité, on l'a déjà. Cette base-là, on a de quoi, quelque chose sur quoi s'appuyer. Et ces choses-là, de second plan, finalement, on peut vivre avec, même si on ne sait pas le fond des choses. Tout ce qu'on sait, c'est que tant que les consignes du gouvernement ne viennent pas en contradiction avec les Écritures, ce que Jésus nous enseigne, et ça fait partie de la vérité que l'Esprit nous a, dans laquelle l'Esprit nous a conduit, tant que ça ne vient pas en contradiction avec les Écritures, avec la Bible, on l'a vu dans notre étude de Romains, au chapitre 13, qu'on a fait le 25 avril passé, si ça ne vient pas en contradiction avec ça, la Bible nous dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Donc, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, si l'autorité me dit « tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça », bien, la Bible m'invite à être soumis aux autorités. Si par contre, ça vient en contradiction avec la Bible, eh bien, à ce moment-là, ce qui doit primer, parce qu'on sait que ça, c'est la vérité, ça, on est certain que c'est la vérité, si ça vient en contradiction avec ça, à ce moment-là, ce qui doit primer, c'est la vérité. Puis, Juste un exemple de ça, que dans, en temps de persécution, on voit ça, les autorités nous interdisent de parler de Jésus, de présenter l'Évangile. Vous n'avez pas le droit de parler de Jésus, sinon on vous met en prison, on vous arrête. La Bible nous dit d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, ça vient en contradiction. À ce moment-là, on n'a pas à respecter ce que l'autorité dit parce que la Bible nous ordonne le contraire. Bon, c'est peut-être un petit peu abstrait. J'ai fait un petit schéma pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air. Donc, la prochaine. OK. Donc, on parle ici de la gouvernance de Dieu. Disons que mon cercle jaune-vert, ça, c'est le domaine de gouvernance de Dieu. Donc, ça serait l'univers. OK? Dieu gouverne sur tout l'univers. Mais Dieu a donné une partie de sa gouvernance aux hommes. Et parmi les hommes, le suivant, au gouvernement. Dieu a donné, bon, évidemment, on n'est pas à l'échelle ici, hein, par rapport à l'univers, ce que le gouvernement contrôle, ce n'est pas grand-chose. Ça sera juste un petit point, une petite poussière sur mon graphique, là, mais je voulais qu'on puisse le voir. Donc, il a donné une partie de ce qui lui appartenait comme gouvernance au gouvernement. Et c'est ce qu'on voyait dans Romains 13, justement, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Les autorités qui sont là ont été établies par Dieu pour faire respecter les lois, patati patata. Donc, ça, c'est le domaine de gouvernance que Dieu a donné au gouvernement. Dans notre situation actuelle, dans d'autres époques, on dirait au roi, il y a encore des rois et des reines aujourd'hui, là, mais c'est moins populaire, disons, des gouvernements. Et aussi, Dieu a donné une autre partie de gouvernance à l'Église, à son Église. Vous remarquerez que dans mon schéma ici, il y a une partie de la gouvernance de l'Église qui est aussi sous la gouvernance du gouvernement. Et il y a une partie qui appartient à l'Église et qui n'est pas sous la gouvernance du gouvernement. Je vais m'expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que le gouvernement a le droit, si on se construit une Église, d'exiger, vous allez la construire à temps de pied du chemin, vous allez devoir vous... avoir un champ d'épuration, avoir un puits aussi. Le gouvernement a le droit d'exiger qu'on fasse des tests d'eau. Hein? Jean-Pierre, vous savez c'est quoi? On est obligé de faire des tests d'eau, je pense à tous les mois, faire tester notre eau, être sûr qu'elle est potable pour que personne ne s'intoxique avec l'eau. Donc, c'est tous des domaines de gouvernance qui appartiennent à l'Église, finalement, mais qui sont aussi sous la gouvernance du gouvernement et de Dieu, évidemment. Donc, le gouvernement a le droit de nous imposer des balises et tout ça, la façon qu'on va construire le bâtiment. Donc, c'est assez large. Le fait aussi qu'on peut avoir donner des reçus de dons de charité. Ça appartient au gouvernement, ça appartient à l'Église en même temps. Donc, ça, c'est tous des domaines qui appartiennent aux deux. Par contre, il y a des domaines, comme on a dit tout à l'heure, comme celui, exemple, d'aller, d'annoncer à toutes les nations l'Évangile. Ça n'appartient pas au gouvernement. Ça, c'est Dieu qui a donné cette ordonnance-là. Et le gouvernement ne peut pas dire « vous allez ou vous n'allez pas le faire » parce que la Bible nous ordonne de le faire. Donc, il peut arriver que certaines consignes gouvernementales viennent se situer ici, que le gouvernement outrepasse finalement, l'autorité que Dieu lui a donnée. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, comme Pierre et Jean l'ont fait dans Actes 4, 19, et qu'ils ont dit, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À ce moment-là, on dit non. Là, c'est à Dieu que je dois obéir, pas au gouvernement, parce que ce que tu me demandes de ne pas prêcher, ça se situe là. Et c'est ça, c'est là que on peut ne pas être soumis à une autorité qui nous demanderait quelque chose. Bon. Maintenant, le débat qui se vit aujourd'hui et même au sein de l'Église, c'est de déterminer qu'est-ce qui appartient au gouvernement et qu'est-ce qui n'appartient pas au gouvernement. Et c'est là que souvent, il va y avoir des divergences, même au sein d'une même Église, mais entre plusieurs Églises. Donc, on pourrait se demander dans quel champ de gouvernance. Exemple, le port du masque, est-ce que... Oh, tu peux revenir à... OK. Le port du masque, est-ce que ça se situe ici ou là? Hein, je pense que ça ne vient pas en contradiction avec aucun texte biblique, aucune exigence biblique, donc on ne peut pas se rebeller sur la base que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas conforme, que c'est contraire aux Écritures. Le fait de ne pas chanter en Église. Là, je n'aurais pas donné de position, mais est-ce que ça se situe ici ou est-ce que ça se situe là? Est-ce que la Bible ordonne clairement de le faire? Prendre le repas du Seigneur. Où est-ce que ça se situe? Si le gouvernement dit que vous ne devez pas célébrer le repas du Seigneur, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Et où le fait, lorsqu'il y a eu le confinement, et qu'ils ont exigé de cesser les rencontres en Église, est-ce qu'encore là, ça se situe dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là? Et c'est là que, vous avez peut-être entendu aux nouvelles, M. MacArthur, John MacArthur, lui est en Californie, je crois, et le gouverneur de la Californie a interdit les rassemblements en Église. Il n'avait plus le droit de se rencontrer, et lui a dit non. La Bible nous dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un petit peu sur cette base-là. Il dit non, les rassemblements d'Église, c'est là et non pas là, donc nous, en tant qu'Église, on va continuer les rassemblements. Mais c'est pour ça que je vous dis, vous voyez comment ça peut être délicat, là. Selon que les personnes vont l'interpréter. Nous, on a choisi, parce qu'on ne voyait pas là une persécution, on voyait juste un besoin au niveau de la santé publique. On a dit, on a accepté de cesser les rencontres, mais c'est là que va peut-être être la zone grise. Et là, on va avoir à faire des choix parfois, et une personne peut penser qu'une telle situation est là, alors que l'autre pense qu'elle est là, et ça va faire toute une différence dans notre façon de l'appliquer. Dans notre façon d'obéir à ces consignes gouvernementales-là. Donc ça, il faut faire attention, même dans l'Église, de ne pas devenir, si on veut, dogmatique par rapport à certains domaines qui sont peut-être un petit peu plus ambigus. Donc, vous conviendrez que, bon, ça ne donne pas une réponse à toutes nos questions, mais ça nous aide à comprendre pourquoi parfois il va y avoir tellement de divergences d'opinion. Ce que je vous recommande, c'est de faire attention de ne pas vous laisser polariser, par contre. Vous pouvez avoir une opinion que, bon, l'Église de MacArthur, c'était pas correct ce qu'ils ont fait, ou que ce que le gouvernement demande, ce n'est pas correct. Évitez de vous polariser en vous inondant de vidéos ou d'informations sur Internet qui vont aller appuyer ce que vous croyez. Et acceptez que quelqu'un à côté de vous peut avoir une position différente. Okay? Parce que là, la vérité n'est pas clairement donnée dans les Écritures. Qu'on n'a pas quelque chose qu'on peut trancher au couteau par notre seule source, finalement, de vérité, qui est la parole de Dieu. Maintenant, comment le fait que l'Esprit me conduit dans toute la vérité, bon, concernant Jésus, ça peut m'aider dans ma quête de la vérité au sujet, dans des sujets séculiers? Comment est-ce que ce verset peut m'aider quand je veux savoir si la COVID, c'est une invention ou si c'est réel? Eh bien, premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a la vérité fondamentale sur laquelle on peut prendre appui. En toute confiance, à ce moment-là, les autres sujets deviennent secondaires, facultatifs, et je peux vivre avec, même si je ne sais pas la vraie vérité par rapport à toute l'histoire de la COVID. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu nous donne aussi du discernement. Pour identifier certains mensonges qui viendraient en contradiction avec des points des Écritures. Par exemple, si les Israéliens viennent nous dire que ce virus est d'origine extraterrestre, qu'ils ont implanté ça sur la Terre pour des raisons X, on peut tout de suite mettre ça de côté. Hein? Là, on sait qu'on n'est pas d'accord avec leur position, donc on a un certain discernement. Ou l'autre affirmation pourrait être que, OK, c'est la fin du monde. La COVID-19, c'est la façon que la fin du monde va arriver, qu'on est dans la fin des temps, que l'extermination de la race humaine va arriver, eh bien, quand on connaît les Écritures, qu'on regarde les textes bibliques, on peut conclure qu'il manque encore des éléments pour qu'on soit vraiment à la fin du monde, qu'on soit à l'Apocalypse. Donc, on peut, grâce aux Écritures, mettre cette affirmation-là de côté, parce qu'il manque d'autres choses. Il n'y a pas juste ce point-là, il y a plein d'autres choses qui se sont arrivées et qui ne sont pas arrivées encore. Donc, les Écritures nous aident à repousser certains mensonges qui nous arrivent. Mais aussi, j'aimerais ça juste revenir à une parole, on peut y aller, d'Ecclésiaste. Donc, c'est l'homme le plus sage que la terre a porté, Salomon, qui nous a dit cette parole. Il dit, « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Bon, vous conviendrez que plus l'Esprit nous conduit dans la vérité, hein, bien évidemment, on a de plus en plus de connaissances de la vérité, donc ça revient à augmenter notre science. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que Salomon a dit que plus tu as de science, plus tu augmentes ta douleur parce que tu vois plus le mal. Tu connais de plus en plus ce qui est bien, ce qui est mal, et en voyant tout le mal qui t'entoure, c'est de plus en plus difficile. Donc, quand nous sommes conduits dans la vérité, on va souffrir davantage en constatant la méchanceté des gens, ou même des peuples autour de nous. Donc, on peut même aussi, en progressant finalement dans la vérité, arriver à comprendre souvent les motifs des gens. Qu'est-ce qui peut motiver des gens à propager des mensonges ou à eux-mêmes poser des gestes qui seraient méchants ou qui seraient des péchés. Par exemple, là, on parlait de la dernière diapositive. Tout le monde a des masques, et vous avez peut-être pris un à l'entrée ce matin, mais regardez juste la provenance de tous ces équipements de protection qu'on porte dans ce contexte-là, les masques de sécurité, les visières, le désinfectant et tout ça. Et vous allez remarquer qu'il y a une provenance qui revient très souvent. Hein? Donc, on peut, juste en additionnant 1 plus 1, comprendre que le pays duquel vient ces équipements-là, qui, soit dit en passant, on les paye 5 fois ce qu'on les payait avant la COVID, là, le prix a gonflé, ils sont en train de rouler sur l'or, là. Ils sont en train de faire des affaires en or, puis il y a une enchère qui se fait même pour ces équipements de protection-là, qu'eux pourraient avoir un motif valable d'alimenter toute cette peur-là autour de la COVID. Je ne dis pas qu'ils ont inventé le virus, là, ça c'est un autre débat, mais qui aurait un intérêt. Donc, quand on a des informations qui nous viennent de ce pays-là, ce serait légitime de revérifier ou de contre-vérifier ce qui nous est dit. Est-ce que c'est plausible ce qui nous est dit? Parce que souvent, si on croit juste aveuglément, on peut se laisser enfirouapper, comme on dit. Fait que le fait qu'on soit guidé dans la vérité, ça peut nous aider à identifier des motifs, des fois, que des gens pourraient avoir de nous amener vers le mensonge. Par contre, même là, je vous dirais, faites attention à vos sources. Assurez-vous que vos sources sont bonnes et non pas biaisées. Parce que même les nouvelles, ça je suis de plus en plus tanné, les nouvelles sont polarisées. Les nouvelles qu'on écoute à la télé, moi j'aimerais ça qu'ils me disent juste la nouvelle, les faits. Mais ils mettent tellement, puis il y a des commentateurs qui embarquent là-dedans, puis ils prennent un côté ou ils prennent l'autre côté. Mais là, tu dis, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est des faits dans ce qu'ils m'ont dit? Puis qu'est-ce qui est leur opinion? Finalement, les nouvelles, c'est rendu des opinions. C'est plus rendu des faits purs. Donc, même la télé, je vous dirais, faites attention aux sources, puis prenez-les toujours avec un grain de sel, avec un... Ouais, OK. J'ai entendu ce qu'il a dit, il ne va pas croire tout ce qu'ils disent à 100% non plus. Donc, parce que l'Esprit me conduit dans la vérité, ça va m'aider à pouvoir identifier peut-être des mauvais motifs à travers ça. Troisièmement, on peut prier pour que l'Esprit nous éclaire dans la vérité, dans des domaines qui sont souvent plus pointus, des choses qui ne sont pas claires, qu'on a peut-être de la difficulté à trouver qu'est-ce qui serait le mieux, puis c'est important pour nous. Prenons juste un exemple de ça. Disons que je veux changer de véhicule. Je voudrais acheter un véhicule neuf, et là, je me demande, est-ce que le GM serait mieux que le Ford dans ce domaine-là? Bon, il existe des commentateurs, des évaluateurs qui donnent des cotes sur les véhicules, puis évidemment, le passé nous montre que souvent, certains d'entre eux se font acheter par des grandes multinationales pour favoriser leurs produits. Donc, c'est celui qui va payer le plus cher, la réponse va aller souvent de ce côté-là parce qu'il a été plus généreux que l'autre. Donc, ça, on en est conscient aussi. Donc, même là, tu te dis, OK, je peux les regarder, les commentaires et tout ça, encore avec un grain de sel, toujours pas en me méfiant, mais en prenant pas ça pour du cash nécessairement. Mais souvent, mes recherches ne vont pas nécessairement être une bonne base pour faire mon dernier choix. Donc là, évidemment, on veut toujours demander à l'Esprit de nous diriger lorsqu'on a une grande décision à prendre. Comme exemple, le choix d'un véhicule, c'est quand même un gros investissement. Donc, on ne veut pas faire un mauvais choix, mais on devrait toujours demander à l'Esprit. Mais quand c'est pas clair, quand c'est une zone grise, je pense qu'on doit particulièrement être patient, puis attendre d'avoir que ce soit clarifié. Souvent, ça va être quelqu'un, oui, j'en ai déjà acheté un GM, puis j'ai vécu telle chose, ou là, c'est quelqu'un de fiable autour de nous. C'est quelque chose des faits réels. Fait que l'Esprit peut utiliser des frères, des sœurs, nos voisins, ou des situations pour qu'on voit où, tu sais, tu veux acheter un véhicule, puis là, tu envoies un sur la remorque à côté, ah, c'était pas bon. Non, pas nécessairement. Là. Mais l'Esprit peut nous aider à faire des choix éclairés, même si on n'aura pas toujours la certitude à 100%, l'Esprit est là quand même pour nous aider à faire des bons choix. Donc, qui dit vrai? Donc, seul l'Esprit de vérité peut nous conduire dans toute la vérité. Donc, laissez-le vous conduire. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité. Vous avez tout à y gagner. C'est quoi les trois mots de l'expression qui est là? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Comment? Non, mais ça aurait pu. Carmel, là. Carmel a trouvé découvrir la vérité. Hein? Ils ont déchiré le papier pour découvrir la vérité. Donc, c'est par l'esprit qu'on va pouvoir découvrir la vérité. Bravo, Carmel. On va prier. Eh bien, oui, Seigneur, certainement, on veut venir au pied de ton trône, te dire combien on est reconnaissant de ce qu'on peut avoir avec nous, en nous-mêmes, Seigneur, l'Esprit de vérité, qui peut nous conduire jour après jour dans toute la vérité. Quel privilège, Seigneur, certainement, on ne veut pas en faire un sujet d'orgueil, Seigneur, parce que c'est la vérité, c'est la réalité de ce qu'on vit. Ce n'est pas quelque chose dont on se vante, mais qui n'est pas vrai. Mais Seigneur, on veut certainement te dire combien on en est reconnaissant. Et certainement, je veux te demander de diriger mes frères et mes sœurs dans toute cette vérité. Donne-leur cette sagesse qui vient de toi pour avoir du discernement. Mais surtout, Seigneur, je te demande qu'ils puissent éviter d'entrer dans le piège de se laisser polariser, Seigneur, soit par les médias ou autres, Seigneur Dieu, et de devenir dogmatique sur des positions qui ne sont pas claires dans ta parole. Alors, Seigneur Dieu, garde-nous unis en toi, unis dans la vérité, parce que, Seigneur, la vérité, on l'a dans ta parole. Aide-nous à rester accrochés à ta parole, accrochés à tes Écritures, Seigneur Dieu, quiconque ici, et ceux qui te connaissent, Seigneur, particulièrement, ceux qui ne te connaissent pas, amène-la à la vérité. En Jésus, on veut te le demander. Amen.